Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'impensable est arrivé, les US ont voté pour bannir TikTok, on a aussi Meta qui essaye de devenir l'Android de la réalité virtuelle, et l'iPad M4 qui pourrait lancer l'ère de l'IA chez Apple, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Je sais pas pourquoi je dis dans le Rendez-vous Tech. Je me demande si c'est pas un tic de langage comme les journalistes qui ont le ton du journaliste. Benoît, qu'en penses-tu? Benoît Curdy de NupTech est avec nous en direct de Lausanne. Wouhou, bienvenue. Salut Benoît.
Salut Patrick, quel plaisir. Écoute, si on devait commencer à compter tous les tics de langage qu'on a quand on fait des podcasts, je pense que ça nous ferait une grande émission. Ouais. Et je trouve que ça donnait très bien. J'ai beaucoup aimé ton introduction.
C'était professionnel. Donc, est-ce que toi aussi tu dis NupTech? Comme ça, non? Bon, peut-être pas.
On a toujours le même début depuis. Salut à tous et à toutes maintenant. Et bienvenue dans NupTech. Et on le fait, voilà. Et
donc, l'intro, très bien. Mais écoute, je suis content de t'avoir avec nous. Généralement, tu n'es pas dispo le mardi midi quand on enregistre l'émission, en direct sur Twitch et sur YouTube d'ailleurs. Mais là, tu étais dispo juste quand je t'ai demandé un hasard heureux, une destinée qui nous unit. Donc, merci d'être là. Ça me fait très plaisir.
Et je pense qu'il y a un peu de karma là-dedans parce que, en fait, j'ai dû aller au bureau pour une réunion vraiment pénible hier et donc j'ai inversé mes jours. Ah. Et comme récompense, l'univers m'a envoyé ton message, donc j'étais très, très heureux, voilà.
C'est la récompense après la journée, la réunion pénible, c'est de faire le rendez-vous tech. Et vous tous, auditeurs et auditrices, vous avez la récompense toutes les semaines, c'est d'écouter le rendez-vous tech. Alors, est-ce une récompense ou une corvée que vous faites pour savoir ce qui se passe dans le monde de la tech? Je ne sais pas, je vous laisserai juge de ça, mais en tout cas, vous écoutez et je vous remercie très chaleureusement d'être fidèle. Et je remercie également les Patriotes. On a un nouveau Patriote qui nous a rejoint, Takashi Toka, et Patriote depuis quelques jours. Donc, un grand, grand merci à lui et merci aussi aux producteurs Renaud et Julien D, qui soutiennent l'émission au niveau secret. Vous savez, sur patreon.com, il y a un niveau qui est super bien caché, presque impossible à trouver pour devenir producteur. Eh bien, eux l'ont trouvé, donc un grand merci à eux et à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent le rendez-vous tech sur patreon.com/RDVTech, vous le savez. Écoutez, on a des sujets importants et graves à traiter, donc on va se lancer tout de suite dans les news de la semaine et les news à retenir. Et il y a des choses dont on va devoir parler sérieusement, Benoît. J'espère que je te regarde là droit dans les yeux, ça va être sérieux.
Mais tu sais que c'est mon grand plaisir de parler de loi et de règlement, donc je suis tout...
Tout est moustillé, c'est ça.
Tu es prêt, clairement.
Alors écoutez, première news de la semaine, l'impensable, l'inimaginable est en fait arrivé. Les États-Unis ont voté pour bannir TikTok et je ne sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire là-dessus. Je crois qu'on va peut-être traiter d'abord de la question générale assez rapidement, est-ce que c'est justifié ou pas? Donc trois choses, est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça peut se faire? Et comment est-ce que ça pourrait se faire? La première question, est-ce que c'est justifié? Eh bien, ça dépend à qui on demande, en fait. Parce qu'il y a une raison qui est donnée, qui est complètement laissée à l'interprétation de chacun, qui est TikTok a une importance fondamentale aujourd'hui dans le panorama Internet des États-Unis, enfin du monde en général, mais des États-Unis en particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok et comme n'importe quel réseau social, il y a des influences qu'il peut avoir sur ce que pensent les gens, ce que voient les gens, ce que comprennent les gens. Et bien sûr, TikTok est une société qui appartient à la société ByteDance, société chinoise, comme toutes les sociétés chinoises, les relations entre ByteDance et le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, sont, on va dire, très étroites, pour ne pas dire plus. Pour être clair, il est assez probable que le gouvernement chinois puisse dire à Biden ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et de cette manière, par l'intermédiaire de Biden, influencer ce qui se passe sur le réseau TikTok. Donc, le Parlement américain a décidé que cette influence du gouvernement chinois sur ce que voient et comprennent les Américains, et en particulier les plus jeunes Américains, n'était pas acceptable, n'était un risque qui n'était pas acceptable, et ils ont décidé de bannir. Pourquoi c'est controversé ? Parce que le risque est potentiel. Il n'est pas avéré aujourd'hui, ou en tout cas pas dans ce qu'on a vu nous, peut-être que les parlementaires, eux, ont vu des documents et ont eu des briefings de sécurité plus convaincants, mais il n'est pas avéré que le gouvernement chinois a directement influencé l'algorithme ou ce que présente l'algorithme de TikTok. Il n'empêche, c'est vrai pour les réseaux sociaux américains, c'est vrai aussi pour les réseaux sociaux de toute origine. Et donc, ça peut aussi être vrai avec le réseau TikTok, avec cette différence. Et là, c'est un petit peu moi qui le pense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais il n'y a pas plus d'influence possible sur TikTok que sur Twitter au hasard, qui est le réseau le plus polémique, ou d'autres. Hein. » Et puis, on n'a pas de preuves. Donc, est-ce que c'est de la xénophobie ? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Là, pour donner mon avis, je crois qu'il est un petit peu naïf de penser que le gouvernement chinois ne se servirait pas de cet outil s'il n'en avait pas le besoin et l'occasion, puisqu'il est évident que les relations entre le gouvernement et Biden sont étroites et entre Biden et TikTok, malgré toutes leurs grandes promesses, on n'a pas l'impression, d'après tous les témoignages qu'on a eus, on n'a pas l'impression que le mur entre TikTok et Biden soit un vrai mur. Il y a une influence, il y a des instructions, il y a de la communication. Et c'est ce type de réseau et peut être utilisé comme un outil d'influence et peut être utilisé pour semer le chaos, la méconnaissance, la désinformation, etc. On l'a vu à de nombreuses reprises ces dernières années. La différence qu'il y a entre TikTok et les réseaux américains essentiellement, c'est que les réseaux américains, ils sont là pour faire de l'argent. Les réseaux chinois, ils sont là pour faire de l'argent et aussi pour servir le but et les propos du Parti communiste chinois. Et donc, la différence est claire, elle est évidente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir TikTok ? Ça, on pourra en discuter. Mais penser que, de toute façon, TikTok, Threads, Mastodon, Blue Sky et Twitter, c'est la même chose, je pense que c'est très naïf et je ne pense pas que ça soit le cas. Il y a un cas particulier avec TikTok, d'autant plus que tous ces réseaux, s'ils sont américains ou même européens, s'il y a un problème avec ces réseaux, on peut convoquer les dirigeants devant les parlementaires et leur demander de s'expliquer, leur imposer des changements, etc. Là, TikTok, ce n'est pas le cas. Et oui, il y a une différence entre le gouvernement chinois qui impose sa narration à la population et les gouvernements occidentaux où, on ne va pas commencer à expliquer la différence entre un gouvernement totalitaire et une démocratie, mais il y a une différence. Les autres questions, c'est est-ce que cette vente peut se faire ? Parce qu'avant même de savoir comment elle pourrait se faire, il faut se demander si elle peut se faire. Et ce n'est pas garanti, parce que à la fois Biden et le gouvernement chinois ont exprimé l'idée qu'ils ne voulaient pas que la vente se fasse. C'est-à-dire que les parlementaires américains ont dit soit Biden vend TikTok à une entité américaine, a priori, donc sépare complètement, véritablement, les deux sociétés, scinde les relations, coupe les relations entièrement, ou alors TikTok sera banni. Ils ont 9 mois pour faire ça, et le président peut ensuite étendre le délai de 3 mois en plus. Donc en gros, ils ont 1 an, il peut étendre le délai si des discussions sérieuses sont en cours. Mais il n'est pas dit que ça se fasse parce que le gouvernement chinois, évidemment, ne veut pas laisser partir cette pépite. Peut-être qu'ils préféreront bannir complètement le réseau, enfin que le réseau soit complètement banni des États-Unis plutôt que de, la, de le vendre. C'est tout à fait possible. Biden également a exprimé l'idée que vendre, ça ne les intéressait pas trop. Ils préféreraient le bannir. Et puis, il faut avouer qu'à ce stade, il risque d'y avoir des recours légaux nombreux et multiples de ByteDance et de TikTok pour faire annuler cette décision sur différentes, pour différentes raisons, des questions de liberté d'expression, de business juste et équitable, etc., etc. La dernière chose, c'est comment est-ce que ça pourrait se faire ? Eh bien, écoutez, il pourrait y avoir plein de formules différentes en fonction de qui va racheter. Il y a plusieurs personnalités américaines qui ont exprimé leur envie, leur désir de l'acheter, que ce soit de la sphère politique ou de la sphère industrielle. Et puis, il est possible qu'on vende uniquement les contenus et les utilisateurs, c'est-à-dire ne pas vendre l'algorithme. Ça, c'est la grande question. Alors, aujourd'hui, on sait plus ou moins comment fonctionne l'algorithme de TikTok, mais c'est quand même ce qui a permis au réseau de sortir de nulle part et de gagner une popularité complètement folle, puisque l'algorithme, en gros, il ne prête quasiment pas attention à qui vous suivez, il prête uniquement attention à l'intérêt de chaque vidéo individuelle. Donc, de qui elle vient et qui on suit, ça n'est pas vraiment très pris en compte. Mais le plus important, c'est est-ce que la vidéo génère des vues ? Et c'est la base de l'algorithme. Mais il y a évidemment énormément de petites subtilités que ByteDance ne veut sans doute certainement pas dévoiler. Donc, peut-être que la vente de TikTok se ferait sans cet algorithme. Donc, il vendrait les utilisateurs et les contenus existants et les deals, etc., mais pas l'algorithme qui est la pépite. On estime aujourd'hui que TikTok pourrait valoir 100 milliards de dollars. Alors, avec ou sans l'algo, on ne sait pas. Mais si on enlève l'algo, qu'est-ce qui reste de cette valeur ? Parce que c'est quand même énormément des centaines de milliards d'utilisateurs. Mais en même temps, le site ne fait pas énormément d'argent. Donc, il y a plein de questions là. Comment ça pourrait se faire ? Même ça, ce n'est pas clair. Est-ce que ça pourrait se faire ? Même ça, ce n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que la machine est en route et maintenant, il y a 9 mois pour commencer des discussions très sérieuses pour cette vente ou alors pour dire « Désolé, vous pouvez bannir le réseau, nous, on ne vend pas. » C'est un petit résumé. Benoît, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Un excellent résumé. Et je pense que, comme toujours, quand on parle de politique, il faut vraiment faire attention au contexte. Alors, le contexte, c'est que cette loi a été décidée pendant le 118e congrès qui, comme vous le savez sans doute, a été aussi beaucoup dédié à l'aide étrangère, Israël, Ukraine. Donc, on est déjà dans un congrès très, très basé sur le côté militaire, si on veut, des États-Unis, en tout cas la puissance des États-Unis dans le monde. Et j'ai essayé de retrouver l'acte en question, donc la loi qui a permis, qui a été votée. Il y en a eu beaucoup sur TikTok, mais normalement, celle qui a passé s'appelle la loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers. Et si vous connaissez un peu nos amis américains, ils aiment bien donner des notes à leur pays voisin, ami ou ennemi, enfin tous les pays du monde. Et donc, on est sur une liste et clairement, la Chine, c'est un adversaire étranger. Donc déjà, ça pose le contexte et c'est important de voir comment c'est écrit et comment c'est amené. Et donc, je pense qu'effectivement, le contenu, à mon avis, il y a sans doute des sénateurs et des représentants qui sont sensibles à ça. Mais à mon avis, ce n'est pas là que l'enjeu a été principal. Mais c'est vraiment, est-ce qu'on autorise la Chine, à travers une de ces sociétés, à avoir autant de données sur nos concitoyens? Et clairement, le projet de loi n'interdit pas, et c'est toujours la même chose dans ces projets de loi, il n'interdit pas TikTok ou Biden en soi, mais il interdit de distribuer, maintenir, fournir des services d'hébergement à TikTok. Donc, en gros, c'est envers les sociétés américaines, Apple, Google et autres, qui pensent. Donc, TikTok pourra toujours, c'est comme ils font en Chine avec Twitter et Facebook, avec un VPN, avec des trucs, on pourrait toujours avoir accès à TikTok. Mais la
réalité... C'est-à-dire qu'il pourrait être plus disponible sur les App Store, peut-être même supprimer des téléphones déjà installés ou je ne sais pas, ce genre de choses, ou bloquer pour qu'on ne puisse plus effectivement accéder au réseau directement. Donc, en pratique, il serait plus accessible, quoi.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est toujours intéressant, je pense vraiment, de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on arrive en tant que pays à amener une décision comme ça. L'autre truc intéressant, c'est qu'au début, ils disent que la loi s'applique à toute entité, application contrôlée par un adversaire étranger, mais alors ça semble général, mais après ils disent directement, mais en fait c'est Biden, donc c'est clair. Et ça c'est très rare. Il faut quand même penser, une loi en général, elle est faite pour avoir quelque chose de général. C'est assez exceptionnel d'avoir une société qui se retrouve dans un texte juridique avec la cible au milieu du front, en disant non mais c'est toi, c'est vraiment de toi dont on parle quoi. Et ça, en soi, ça montre le pouvoir de TikTok et peut-être ça justifie les craintes effectivement. On sait, hein, moi, le fait typiquement que des personnes aient TikTok sur un téléphone professionnel, alors typiquement en travaillant pour un gouvernement, je trouve ça pas du tout acceptable. Mmh. Dans la mesure où effectivement, c'est connu tous ces trucs. On peut savoir où les gens sont et s'il y a un regroupement de personnes dans un endroit, on a déjà de l'intelligence sur ce qui est en train de se passer. Donc oui, il y a des bonnes raisons.
On avait vu du personnel militaire qui utilisait des applications de sport, par exemple, enfin d'entraînement.
Exact.
Qui du coup avait la localisation pour voir comment, s'il faisait bien la course, de combien de distance il parcourait, etc. Et donc, ils avaient la localisation et on pouvait du coup retrouver des bases secrètes ou ce genre de choses. Donc oui, des données, clairement, elles peuvent être utilisables déjà à ce stade, à ce niveau, quoi.
Par contre, sur le côté contenu, Patrick, là, je suis intéressé d'avoir ton opinion parce que je ne suis pas convaincu. Si on regarde ce qui s'est passé avec les Républicains dernièrement, qui ont voté, hein, c'était bipartisan, ce qui est également assez rare pour être souligné quand même aux États-Unis, ce n'est pas que c'est des grands fans de Google, de Twitter, enfin maintenant plus de Twitter, mais ils ont quand même beaucoup, beaucoup critiqué le fait qu'ils pensaient être censurés par ces plateformes et je ne crois pas qu'ils les aient en beaucoup plus haute estime ou confiance qu'un TikTok, sincèrement.
Sans doute pas, mais c'est vrai que c'est rare que les deux partis américains se retrouvent sur des lois comme ça et votent ensemble. Alors, ils l'ont fait pour des raisons différentes, sans doute. Il se trouve que ça se recoupe. Mais ça montre à quel point aussi la préoccupation sur TikTok spécifiquement est forte. Alors, il faut dire que la loi a été incluse dans une loi qui, comme tu le disais, a plus à voir avec l'aide à l'étranger pour Israël et l'Ukraine. Donc, ça a été inclus dans une loi plus générale que personne ne voulait pas voter. Donc, ça a fini de convaincre les derniers réticents. Mais il n'empêche, une des choses qui est notable là-dedans, c'est que oui, comme tu le disais, il y a des problèmes de désinformation sur tous les réseaux. Le truc, c'est que ce n'est plus la même chose quand tu as une possible influence d'un acteur étranger. Et c'est le cas dans d'autres domaines. C'est une chose que j'ai notée et que j'ai entendue et qui, pour moi, justifie l'idée que on ne va pas prendre le risque, même si ça n'est qu'un risque. Il y a certains domaines de la société pour lesquels, et des industries, certaines industries pour lesquelles on n'accepte pas d'avoir un acteur étranger qui a un représentant dans cette industrie important. C'est le cas dans les télécommunications, par exemple. On ne peut pas avoir une chaîne de télé, par exemple, dans certains networks, certains domaines. Aux États-Unis, j'imagine que c'est la même chose dans nos pays aussi, si c'est un acteur étranger. Et certains vont dire « Ah oui, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va faire la guerre à la Chine ?» Ben non, évidemment que non. La meilleure invention de l'humanité de ces derniers siècles, c'est les échanges commerciaux. Et ce rapprochement commercial fait qu'on a une proximité qui rend la guerre beaucoup moins intéressante que le fait de continuer à avoir des échanges commerciaux. Et donc, on continue. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser sa garde et tout accepter. Donc, le fait de dire, c'est presque une infrastructure, les réseaux sociaux, c'est un moyen d'information important, un moyen d'influence important, et on va lui appliquer les mêmes règles que pour, la presse ou les médias, on parle d'infrastructure, une infrastructure de livraison d'électricité, par exemple, ce genre de choses. Ça ne me paraît pas incohérent de dire les réseaux qui peuvent informer ou désinformer sont dans la même catégorie critique à laquelle il faut appliquer des règles et une surveillance particulière.
C'est exactement ça. Et je pense que, d'ailleurs, tu l'as cité, ça va dans une réflexion qui est partout dans le monde. En Europe, on en parle souvent sur la souveraineté et qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est pour ça que, et je pense que tu réponds par là à ma question, c'est-à-dire que le fait que le contenu soit problématique et le cerveau des petits Américains soit vraiment la grande préoccupation derrière cet acte législatif, moi, j'en suis vraiment pas sûr. Et je pense pas qu'il faut trop lire là-dedans. Je pense qu'il faut beaucoup plus lire, comme tu l'as dit, en termes de politique étrangère. Et dans ce cas-là, ça se comprend. Un pays, finalement, fait ce qu'il veut. Après, les gens voteront en conséquence s'ils n'aiment pas. Mais par contre, je ne lirai pas ça comme un grand changement de cap dans comment est-ce qu'on gère le contenu des réseaux sociaux. Il y a d'autres projets en cours là-dedans aux États-Unis. Mais voilà, donc je peux un peu plus sûr. Et puis peut-être, on ne l'a pas dit, mais bon, ça a été mentionné par ailleurs, TikTok est déjà interdit en Inde. C'est quand même un autre gros marché. Et ils sont partis. Ce n'est pas qu'ils ont fait des compromis ou essayé. Donc, c'est vrai que la probabilité, ça va être intéressant. Un, tu l'as bien dit, c'est clair que ça va aller devant les tribunaux et qu'ils vont se battre. D'ailleurs, ils l'ont dit, c'est le début d'un processus, et en tout cas pas la fin. Et puis, est-ce qu'ils vont avoir le droit de le faire? Je ne connais pas assez les États-Unis pour savoir, mais c'est quand même une vraie bonne question, quoi.
Ce que disent les experts légaux, c'est que ça va être une question de sécurité nationale plus qu'une question de liberté d'expression. Et que le gouvernement va faire valoir la sécurité nationale contre la liberté d'expression que va mettre en avant TikTok pour les Américains. Genre, vous privez les Américains de leur liberté d'expression, ce qui est un argument qu'on peut discuter. Mais selon les experts, c'est la sécurité nationale qui va être mise en avant. On me demande dans la chatroom, est-ce que TikTok, c'est singapourien ou chinois ? En fait, TikTok est basé à Singapour, mais la maison mère est chinoise, ByteDance. Donc, sur le papier, TikTok n'est pas chinois, mais possédé par une société chinoise qui, vu les relations entre les deux boîtes, revient plus ou moins au même. J'ajoute un dernier point, ça va avoir des conséquences sur l'élection américaine de cette année également, puisque beaucoup de jeunes qui sont plutôt prêts à voter pour Joe Biden risquent d'être frustrés de cette histoire de ban de TikTok. J'ai pas exactement calculé, on a 9 mois, donc je crois que ça tombe après l'élection, le ban effectif, n'est-ce pas ? C'est en novembre, donc ils ont retardé le truc suffisamment pour pas que ça arrive juste au moment de l'élection, mais il n'empêche, le ban est voté. Donc est-ce que ça va aller au point de changer la vie de jeunes qui sont sur TikTok, qui veulent continuer à utiliser TikTok, et c'est important pour eux, ça fait partie de leur quotidien. Et bien sûr, Donald Trump a déjà commencé à dire « Regardez, c'est Joe Biden qui vous enlève TikTok », alors que on ne l'oublie pas, c'est lui qui avait proposé pour la première fois il y a quelques années de bannir TikTok parce que c'était le méchant réseau chinois. Donc voilà, et j'insiste encore sur un point, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont ressortir cette idée. La Chine bannit des réseaux occidentaux et restreint l'accès aux réseaux occidentaux. C'est le cas de la Russie également. Mais encore une fois, il faut être clair. Ces gouvernements le font pour que l'espace Internet, l'espace en ligne, ne reflète que la narration du gouvernement et qu'on ne puisse pas entendre de voix discordantes. Donc, c'est une intention vraiment totalitaire. On ne parle pas d'une question de sécurité, de défense ou même de question commerciale. Après, on peut penser ce qu'on veut du capitalisme, mais on ne peut pas dire « Ah bah regardez, donc on fait comme la Chine ». S'il y a le bannissement d'un réseau social qui finit par arriver dans nos démocraties occidentales, ça ne veut pas dire « Ah bah c'est pareil parce qu'eux, ils bannissent des réseaux sociaux aussi ». J'insiste. Ils le font et ils contrôlent Internet pour qu'on ne puisse pas dire autre chose que ce que veut entendre le gouvernement. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est une évidence, mais je préfère le dire.
Ouais, et peut-être un tout dernier point que j'aimerais aborder de mon côté, c'est la question de l'algorithme. Parce que, alors, je travaillais il y a très, très, très longtemps de ça chez Google, mais quand je suis arrivé là-bas, je me disais, ouh là là, je vais voir les algorithmes, je vais comprendre comment ça fonctionne, les rankings et tout ça. Et en fait, dans mon domaine en tout cas, c'était vraiment un peu des outils statistiques de base et c'était vraiment deux choses. Un, la masse de données, ça, TikTok n'est pas le seul à avoir, mais aussi le savoir-faire. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point il y a des interventions manuelles et un vrai savoir-faire. Ce n'est pas juste... ah ouais, on a des machines, on a des algorithmes, et puis allez, si quelqu'un les prend, on balance ça comme ça, et puis ça va très bien. Donc, il y a un truc aussi, il ne faut pas être naïf quand on dit, voilà, l'algorithme, à mon ami, rien que de définir qu'est-ce que c'est l'algorithme, ça va être incroyablement dur. Donc ça, je suis assez curieux de voir comment ça va être défini. Peut-être que ça va nous permettre même de, pour tout ce qui est intelligence artificielle, de mieux définir ça. Donc, il pourra avoir des répercussions intéressantes à ce niveau-là en termes légaux. Donc voilà, je suis aussi assez curieux de voir si ça va jusque-là, comment est-ce qu'ils vont gérer cette histoire.
C'est une bonne question aussi, oui. Qu'est-ce que l'algorithme ? Et puis, un autre truc qu'il faut dire aussi, parce qu'il ne faut pas être naïf, évidemment que ça va arranger tous les réseaux américains, hein, que TikTok, le grand challenger, le seul challenger qui a émergé ces dernières années, disparaisse potentiellement. Oui, c'est Facebook en premier lieu, et enfin le groupe Meta avec Instagram et WhatsApp, et etc., qui va en profiter, et les autres réseaux américains vont en profiter aussi. Donc voilà, c'est une évidence. Je ne pense pas que ça soit la motivation principale, contrairement à ce que pourraient dire certains conspirationnistes. Mais ça va quand même être un des effets, c'est indéniable.
Est-ce que tu penses que Disney va être intéressé par racheter ? C'est une des choses qu'on entend. C'est vrai que c'est quand même un contenu très poli. Enfin, il y a pas, voilà, c'est déjà très géré, on va dire, pour pas dire censuré. Ça pourrait être un bon fit quand j'entends ça, mais en même temps, ils sont un petit peu brûlés par leur expérience Disney+. Et je suis pas très convaincu qu'ils aient forcément envie d'aller plus dans le numérique en ce moment, mais voilà, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus.
Je pense pas à Disney, moi j'y crois pas trop, c'est trop messy, un réseau social. Ouais. Et vraiment, Disney c'est super squeaky clean, c'est super propre, super gentil pour tout le monde. Il y a quand même des choses pas propres et quand on commence à avoir des scandales, regardez, j'en sais rien, TikTok provoque l'anorexie. Tu vois, je pense pas que Disney ait envie qu'on dise le TikTok de Disney provoque l'anorexie. Tu vois, c'est pas deux termes qu'ils veulent voir associés ensemble. Donc Disney, j'y crois pas trop. Peut-être des manias de la
Walmart.
L'industrie. On pensait à Bobby Kotick. Il y a des responsables américains, Mnuchin, je crois.
Un qui m'a plu, c'est Walmart, parce que l'idée Walmart, de placement de produits, ça serait gangster. Alors, de nouveau, je ne vois pas quel VP chez Walmart prendrait ça, parce que c'est très risqué, mais là, je trouverais que ça serait un développement intéressant. Bref, on verra.
On verra. Deuxième sujet, Meta devient l'Android de la VR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Meta, vous le savez, ils ont investi énormément dans le métavers, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont renommés Meta. Et l'outil du métavers, c'est les casques de réalité virtuelle. Ces casques, ce sont les casques anciennement d'Oculus, qui sont devenus les Oculus Quest. Il y a eu le 1, le 2, le 3, Oculus Pro, etc. Et ce sont des casques qui ont été développés par Meta pendant de nombreuses années, avec énormément de technologies, énormément d'investissements. Ils perdent des milliards et des milliards de dollars chaque année, chaque trimestre même, pour développer cette technologie qu'ils espèrent, que Mark Zuckerberg espère être la technologie du futur. Mais force est d'avouer que ça ne décolle pas énormément, à la fois chez Meta et puis la catégorie d'objets tech en général. Ça fait à peu près 10 ans que cette année, c'est l'année de la VR. Et écoutez, on attend toujours. Et donc, Meta, constatant que les choses ne décollent pas, a décidé de prendre une décision assez radicale, qui est d'ouvrir son système d'exploitation, qu'ils appellent désormais Horizon OS, qui est le système d'exploitation de ces casques Quest, de l'ouvrir et de le proposer à n'importe quel constructeur. Donc, ça veut dire que on va pouvoir voir des Quest compatibles, en quelque sorte, de tous les constructeurs du type, je ne sais pas, Lenovo, Asus, tous ceux qui veulent peuvent entrer dans un partenariat avec Meta pour proposer des casques compatibles avec tout l'écosystème de logiciels de l'Oculus Quest. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que Meta va étendre potentiellement l'influence de son écosystème Quest et devenir en quelque sorte, comme je le disais, l'Android de la VR, c'est-à-dire que c'est un OS beaucoup plus ouvert que tous les OS propriétaires qu'on a vus jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs, hein, on en a chez Steam, on en a eu, on va dire, l'équivalent avec le HoloLens de Microsoft, on a le PlayStation VR qui pourrait arriver sur PC bientôt, et bien sûr, Apple qui a le Vision Pro, même si ce n'est pas exactement la même catégorie. Donc, Meta dit, bon, le propriétaire, ça n'a pas marché. Mettons-nous tous d'accord avec cet OS qui sera, on va dire, un peu plus ouvert. Je ne pense pas que ça soit non plus de l'open source, mais un peu plus ouvert. Et faisons un standard commun pour que, enfin, la catégorie avec plein d'appareils compatibles puisse se développer. La question vraiment qui se pose, c'est... étant donné que la VR, encore une fois, soyons honnêtes, je sais qu'il y a des fans de VR et je m'excuse auprès d'eux, mais la VR ne décolle pas vraiment. Est-ce que si la VR ne décolle pas avec, on va dire, un casque Meta, est-ce qu'elle décollerait plus avec 10 casques Meta ? Parce que le problème, ce n'est pas la quantité de casques. Le problème, c'est les usages proposés et le fait que ces usages ne semblent pas répondre à un besoin du marché et des utilisateurs. Et si les casques ne répondent pas à un besoin, un casque qui ne répond pas à un besoin, je ne sais pas si c'est très différent de 10 casques qui ne répondent pas à un besoin. Vous pourrez acheter un casque, vous pouvez aujourd'hui acheter un casque dont vous n'avez pas besoin, vous pourrez demain acheter 10 casques dont vous n'avez pas besoin. C'est ma vue un petit peu cynique, mais j'ai l'impression que ça risque de se terminer comme ça. Benoît, est-ce que tu as plus d'espoir ? Sois un peu plus positif, s'il te plaît.
Bon, non, alors clairement, le fait d'ouvrir, c'est une capitulation, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le lire. Évidemment, si on peut garder le système fermé, on le ferme. Et d'ailleurs, c'est ma grande question, qui va faire confiance à Facebook ?
On me dit, on dit plus Oculus, Oculus Quest. Merci à la chatroom, c'est MetaQuest maintenant, tu as raison. Donc, c'est plus Oculus Quest, tout à fait.
Soyons... On-brand. Mais pour ceux et celles parmi vous qui écoutent le Rendez-vous Tech depuis assez longtemps, vous vous souvenez sûrement de toutes les discussions qu'il y avait eu autour de Facebook qui ouvrait et fermait ses plateformes, typiquement dans le monde des jeux. Hein, c'était vraiment un des gros espoirs que Facebook devienne cette nouvelle plateforme de jeux, alors un peu simple, mais voilà. Et du jour au lendemain, ils ont dégagé tout le monde. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes pour beaucoup de sociétés. Et alors maintenant, ils arrivent et ils disent, mais bon, maintenant, on ouvre de nouveau, allez, on est sympa. Et non, franchement, bravo à Meta avec le Zuckerberg New Look qui arrive, qui est plus 5A, qui est chill, qui open source l'intelligence artificielle, qui open source. Donc, en termes d'image, bravo, je trouve vraiment très bien ce qu'ils font. Clairement, tout ça, c'est lié au fait qu'ils sont en retard sur plein de choses et puis qu'ils se battent de manière... Moi, je suis très fan d'open source, donc je trouve que c'est une bonne façon de se battre. Mais voilà, je suis assez d'accord avec toi que globalement, ce n'est pas très bon signe. On a vu les chiffres de l'Apple Vision Pro qui ne font pas rêver. Donc, c'est vrai. Est-ce que c'est une catégorie qui, finalement, ne va pas décoller ? Moi, je pense qu'il faut suivre les chiffres. S'il n'y a pas un changement... dramatique d'une façon ou d'une autre. Je ne vois pas pourquoi les 5 prochaines années seraient différentes des 10 dernières.
Mais c'est ça, en fait, la question. Est-ce que le fait d'ouvrir et donc de donner plus de flexibilité au marché, d'avoir différents types d'appareils, d'avoir... Est-ce que ça, c'est le changement radical qui va faire que le marché peut décoller ou au moins commencer à accélérer ?
Non, mais on est d'accord. C'est pas que toi et moi, on se dit « Ah, mais si seulement il y avait un peu plus d'ouverture, j'aurais un casque. Ah non, j'aurais un casque sûr, là. » Toi, il y a personne qui dit ça. Il y a des gens qui trouvent du contenu ou pas. Enfin, c'est pas le nœud de l'histoire. Et donc, est-ce que c'est un problème de hardware ? Franchement, avec ce qu'on voit avec Apple, c'est pas un problème de hardware non plus. Je veux dire, comment on peut faire mieux ? Je veux dire, c'est un rêve au niveau du hardware. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? C'est vrai, c'est une bonne question. On a envie d'y croire. Toutes les personnes qui aiment la tech, moi le premier, j'ai envie d'y croire, mais les chiffres, le public décide et ça ne prend pas. Donc, c'est vrai que, bon, tant mieux. Je trouve que c'est très bien de la part de Meta, mais je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit.
On me dit dans la chatroom, on peut tromper un casque 1000 fois, mais est-ce que 1000 casques peut tromper ? Pas mal. Bon, écoutez, on suivra ça, évidemment. Moi, je ne demande que ça. Le truc, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le MetaQuest 2 est à $200. Donc, Sur la gamme de prix, ils ont de 200 à 1500. Sur la qualité du produit, bah, je pense qu'on est à peu près à ce qu'on peut faire de mieux. On peut se connecter au PC, on peut l'utiliser en individuel. Je ne sais pas très bien ce que des sociétés comme Asus ou Lenovo ou d'autres vont apporter, qui sera plus convaincant, mais bon.
Et peut-être juste sur la comparaison qui est juste dans l'esprit, mais qui a des limites de Android, de la VR, c'est que Android, c'était existentiel pour Google. C'est-à-dire qu'ils voyaient bien qu'ils n'avaient pas accès au téléphone portable. Et là, les chiffres étaient clairement en explosion. Et que sans accès à ça, ils devraient faire des deals comme ils ont avec Apple qui leur coûtent des milliards. Enfin, ça deviendrait très, très dur pour leur core business. Ce n'est pas le cas clairement pour Meta. Et donc, je pense qu'ici, en termes de volonté et d'importance, il y a aussi une grande différence.
Troisième sujet, on va parler d'Apple et de l'iPad et de leur nouveau processeur M4. Apple pourrait ouvrir son ère de l'intelligence artificielle avec le processeur M4 très, très bientôt avec l'annonce des nouveaux iPads dans quelques jours à peine, le 7 mai si je ne me trompe pas. Cette rumeur nous vient de Bloomberg, de Mark Gurman, et ce qu'elle dit, c'est que Apple va profiter de sa conférence d'annonce des nouveaux iPads, qui n'ont pas été renouvelés depuis un bon moment, pour présenter son nouveau processeur, donc le M4, quelques mois seulement après l'annonce du M3. Pourquoi une telle rapidité ? Parce que le M4 inclurait des cœurs neuronaux spécialisés dans l'IA qui seraient particulièrement développés et qui permettraient de mettre en place des stratégies d'IA, des algorithmes, des IA personnalisées qui seraient beaucoup plus puissantes. Et du coup, il profiterait de cette annonce d'iPad qui, a priori, est une annonce relativement mineure, on va dire. Elle n'est pas énorme, cette annonce. C'est des iPads, oui, ils vont renouveler toute la gamme, ok. Mais faire une grande conférence pour ça, moi, j'étais un petit peu dubitatif. Par contre, s'ils y attachent autre chose, le processeur M4 est donc le début de cette stratégie de communication sur l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus cohérent d'avoir une conférence, même si elle est préenregistrée, etc., etc. Parce que ce qu'on obtient avec le début de la discussion sur l'IA dès ce mois de mai, c'est qu'on va avoir en mai la brique matérielle qui se met en place. Ils vont commencer à dire « Notre processeur M4 est le seul processeur qui soit capable de vous offrir les capacités d'IA incroyables dont vous aurez besoin. » Donc la brique matérielle va être en place. En juin, on a la WWDC où ils présentent leur nouveau système d'exploitation, notamment iOS, iPadOS et macOS, bien sûr. Et à ce moment, ils vont dire « Voilà la couche logicielle. » Et ils en remettent une couche, justement. Voilà le logiciel que seuls nous maîtrisons puisqu'on a le matériel et le logiciel et on peut vous offrir une expérience incroyable. Donc, deuxième moment de communication. Et bien sûr, on a ensuite la rentrée avec les traditionnelles conférences de présentation des iPhones et sans doute des Apple Watch et d'autres, mais essentiellement l'iPhone, où tout devient cohérent et tout se met en place. Et donc, ils ont le produit, le nouvel iPhone, avec sans doute des processeurs dont ils vont dire « Eh bien, on s'est inspiré du M4, ou on a utilisé les mêmes choses que sur le M4, et on a nos nouveaux OS, et on a des nouvelles capacités. » Et donc, ce produit, c'est celui qu'il vous faut. Et en fait, ils ne vont pas juste vous le dire à cette conférence de rentrée au moment de l'iPhone. Rappelons que l'iPhone représente quelque chose comme 70% des revenus d'Apple. Hein, donc, c'est vraiment sur ça que toute la société se joue. Ils ne vont pas juste vous le dire à la rentrée en septembre ou en octobre. Ils vous l'auront dit en mai, en juin et en septembre. Je peux vous garantir que le message sera très bien passé au bout de 3 conférences qui sont en plus à chaque fois des messes médiatiques et des événements incontournables. Alors si en plus, ils commencent à parler d'IA en mai, ils en remettent une couche en juin et ils concluent en septembre, je pense qu'au niveau marketing et communication, c'est un plan imparable. Maintenant, quelles seront les capacités de tous ces appareils et de tous ces écosystèmes ? On verra, on imagine bien qu'il va y avoir un accent mis sur la vie privée, le fait que justement, grâce à ces processeurs, ils peuvent faire énormément de choses en local, ils vont avoir des assistants très personnalisés avec toutes vos données, avec sans doute également une partie en ligne, ils sont en discussion avec OpenAI et avec Google pour Gemini, sans doute pour utiliser aussi des modèles qui vous permettront d'avoir des informations à l'extérieur de votre écosystème fermé, mais je suis à peu près convaincu que eux, leurs modèles qu'ils ont développés en interne et qui peuvent tourner sur des machines locales, qui seront mises en valeur par ces nouveaux processeurs, eh bien cela, ça sera une autre partie de l'assistant qu'ils garderont jalousement et qui ne sera possible que sur leurs appareils parce qu'ils ont matériel, logiciel et l'ensemble et tout l'écosystème. Et donc, tout ça pour dire, je pense qu'il est assez cohérent de commencer à lancer enfin l'ère de l'IA chez Apple avec cette conférence iPad, alors qu'a priori, c'est une conférence mineure.
Écoute, je te remercie d'avoir expliqué parce que sincèrement, j'étais comme toi. Donc toi, tu connais mieux ce monde-là du marketing, j'étais là, mais bon, alors, moi, j'ai, le seul produit Apple que j'ai toujours eu depuis sa sortie, c'est un iPad. J'y pense jamais. Quand j'utilise, je suis très content. Ça dure des années et des années. J'en ai peut-être eu 3 en 15 ans. Enfin, voilà. Donc, enfin, j'ai que du bien à dire des iPads. Mais alors, je m'en fous. Mais alors, d'une force de cette annonce. Et je me demandais, mais finalement, ils parlent à qui, tu vois ? Parce que c'est clair, je veux dire, je suis d'accord avec toi. C'est pas pour les gens qui veulent acheter un iPad. Que tu fais ça, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre. Et moi, je me disais, mais peut-être que c'est en interne un peu, toi, c'est plus pour, OK, on n'a pas une stratégie AI très claire, on est bon, mais on y arrive, il y a des trucs qui se passent. Parce que c'est vrai, ce n'est pas sur l'iPad que tu as envie de commencer à avoir les outils d'intelligence artificielle que tu dis. Déjà, on a envie que Siri ne soit plus une bouse incroyable et qu'il s'améliore là-dedans. Toi, ça, c'est une annonce. Mais j'aime bien ta façon de voir les choses, parce que si on le prend dans l'angle que tu dis de communication et de préparer et de savoir que ça prend du temps d'expliquer, dans ce cas-là, je comprends. Et dans ce cas-là, ils ont sans doute quelque chose à venir. Je pense que tu as peut-être l'interprétation la plus généreuse. La moins généreuse, c'est qu'ils ont besoin d'exister dans le monde de l'AI et puis qu'ils prennent n'importe quelle excuse pour le faire. Et je ne suis pas certain qu'il y ait un plan aussi bien défini, mais j'espère.
Disons que ils font pas les choses au hasard non plus chez Apple. Ils ont besoin d'exister parce qu'ils ont attendu presque 2 ans maintenant avant de se lancer. Ils ont confirmé que ça sera à la WWDC. Il y aura un coup de projecteur sur l'IA. Mais je pense pas qu'ils fassent ça au hasard. Et effectivement, une conférence, alors l'annonce de nouveaux iPads, c'est important, surtout que ça reste une catégorie relativement mineure chez Apple, mais il n'y a pas vraiment de catégorie mineure chez Apple. Par rapport au reste, c'est petit, mais c'est quand même énorme sur le papier. Mais quand même, une conférence, même préenregistrée, juste pour les iPads, même si ça fait quoi, un an qu'il n'y a pas eu de nouveaux iPads, ou un an et demi, et qu'ils vont renouveler toute la gamme, et qu'il va y avoir un nouveau stylet, etc. Ok, mais il n'empêche que pour des iPads, c'est un peu léger. Là, ça pourrait plus tenir la route.
Ouais, voilà. Et puis non, c'est vrai que l'intelligence artificielle en local, c'est la grande frontière. Je trouvais vraiment intéressant ce que Sam Altman a dit récemment en disant « Ah, c'est la fin des grands modèles. On aura probablement maintenant aussi des plus petits modèles qui vont arriver. » Enfin, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. On voit bien que les LLM, tels qu'on les a maintenant, ils vont continuer à s'améliorer, mais ils ne vont pas tout résoudre. Et on va revenir vers des solutions un peu plus ciblées qui vont faire moins de choses, mais mieux. Et c'est vrai que là, peut-être qu'Apple enfin, on espère qu'ils ont une carte à jouer. Parce que comme tu dis, si tu peux le faire en local, déjà, tu n'as pas besoin d'attendre autant que nous pour plein de choses qu'on doit le faire maintenant. Donc, ouais, tu m'as donné envie de ouais. Suivre cette catégorie. Donc, merci
très
beaucoup.
Bien. Ils ont des modèles d'ailleurs eux-mêmes locaux. Ils ont open sourcé le OpenELM qui est leur modèle local sur l'appareil. Ça ne sert pas aux mêmes choses. Hein. Évidemment, un modèle local ne va pas vous servir aux mêmes choses que peut servir un modèle en ligne plus large parce que la quantité de mémoire est limitée en local, la capacité de process, des processeurs est limitée en local, etc. Mais ils ont open sourcé un modèle qui est à eux, et donc on imagine bien qu'ils vont s'en servir, hein, ça sera un modèle local. Mais oui, donc j'imagine moi cette solution double avec un modèle local sur lequel ils sont très propriétaires, et puis dans un premier temps au moins un modèle externe pour lequel ils utiliseront les services de OpenAI ou de Google, et puis à terme ils pourront toujours remplacer, tu vois, ce modèle externe, même si c'est pas obligatoire. Leur force, c'est le LLM local qu'ils ont développé eux-mêmes et qui utilise les données que seuls eux ont sur vous. Donc. Tiens, en parlant d'iPad, l'Union européenne a déterminé que l'iPad était également soumis au DMA. Donc on va avoir la même chose que sur les iPhones, l'ouverture de l'App Store, etc., sur les iPads aussi. Donc ça va arriver.
J'adore. Tu sais, c'est vraiment les sociétés qui jouent les idiots, quoi. Ah, l'iPad aussi. Alors, on n'avait pas du tout compris. Merci de préciser, quoi.
Il y a une question de taille du parc installé, du nombre d'utilisateurs, etc. Et l'iPad n'était pas tout à fait qualifié pour ça, mais en même temps, il est indispensable pour les sociétés. Et donc, il qualifie quand même. Tu vois, là, on pouvait comprendre que quand même, c'était... Sur le papier, ils n'étaient pas dans le DMA, tu vois. Mais la Commission européenne a décidé si vous y êtes quand même. Donc,
Oui, sur le papier. Non, mais des fois, il faut poser la question et être ouvert à une bonne surprise, on va dire. Mais voilà, pense que la réponse, elle n'était pas complètement inattendue.
Tiens, tu évoquais le casque de réalité virtuelle d'Apple, enfin le Vision Pro de réalité, d'informatique spatiale, c'est ça ? Ming-Chi Kuo a dit, le fameux analyste Apple, semble estimer que Apple aurait vendu deux fois moins de casques que leurs estimations. C'est des estimations qu'on imagine, hein, qu'on évalue, mais ils auraient ils auraient limité leurs estimations à 400 000 à 450 000 unités au lieu des 700 à 800 000 unités prévues avant le lancement. Donc peut-être un enthousiasme qui s'est tari plus vite qu'on imaginait ou qu'il n'imaginait sur le Vision Pro. Bon, ça, c'est l'interprétation de Ming-Chi Kuo. Il y a des gens qui ont dit oui, enfin, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche non plus, parce que c'est des estimations de production et la production, ça veut pas dire de la vente. Bon, tu ne demandes pas 800 000 unités, tu ne prévois pas 800 000 unités en prédiction si tu ne prévois d'en vendre que 400 000. Donc, les chiffres sont pas totalement décorrélés non plus, mais OK. À ton avis, c'est la Bérésina pour le Vision Pro ou de toute façon, aucune importance parce que c'est un produit mineur qui ne sera intéressant que dans 5 ans comment tu vois ça ?
Non, ça me fait de la peine parce que de nouveau, c'est ce qu'on disait avant, on a envie d'y croire. L'autre petite news que j'ai trouvée, c'est pas si anecdotique, mais voilà, il regardait dans je ne sais plus quelle publication les prix de revente sur eBay de ces casques et ils sont typiquement 1 000 $ moins chers. Et quand on connaît la qualité des produits Apple, souvent les gens disent « Ah, moi, j'achète mon iPhone, je revends au même prix un an après, en gros, quoi, parce que c'est effectivement de l'excellente qualité. » Donc, le fait que voilà, les gens se disent « Bon, bah, je suis d'accord de perdre 1 000 $ là, sur ce truc parce que de toute manière, je ne vais rien en faire. » Alors, c'est un peu anecdotique, mais on a quand même un peu tout qui pointe vers la même direction que ça ne va pas le faire. Et voilà, donc moi, sincèrement, allez, s'il baisse encore de 1 000 ou 2 000 $, ouais, je le prends, quoi.
Ah, mais, d'accord, donc t'es quand même intéressé, t'es curieux. Non, mais il faudra attendre le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5. Et puis, comme ça, ouais, c'est le temps de voir s'il existera le 3 ou le 4 ou le 5.
C'est bon. 4-5 ans, effectivement, quoi. Et puis, pourquoi continuer ? Ça va être intéressant de voir en termes de stratégie d'entreprise et de gestion de l'échec, parce que oui, clairement, cette version 1, bon, bah, ça ne marche pas, ok, mais c'est maintenant que ça devient intéressant. Est-ce qu'on investit pour 10 ans ou pas ? Ouais. Mais de nouveau, si je devais investir là-dedans, je ne crois pas que ça serait la catégorie que je choisirais. Mais bon, si j'avais les revenus de l'iPhone, ouais, peut-être quand même.
C'est ça, c'est une virgule, hein, cet investissement pour eux. Donc, et puis surtout, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais clairement, c'est une stratégie à moyen terme, là où généralement leurs produits sont assez finis au lancement pour être viables. Là, on sent que c'était un kit de développement qu'ils ont mis à disposition du public, on va dire. Donc, à voir si les produits suivants, les modèles suivants seront plus convaincants. J'aimerais vous proposer d'aller voir sur patreon.com/rdvtech si vous appréciez l'émission, si vous écoutez. Allez, si vous écoutez depuis que vous avez acheté l'iPhone. Alors, on est à quel l'iPhone le prochain, ça sera le 16. Si vous écoutez depuis que vous avez l'iPhone 14 ou l'Android, non, ça y va pas. Si vous écoutez depuis 2 ans, allez. Si vous écoutez depuis 2 ans et que vous appréciez l'émission, que vous aimez bien et que vous aimez retrouver l'émission régulièrement, j'aimerais vous encourager à aller regarder sur Patreon, patreon.com/rdvtech, pour soutenir l'émission. Pourquoi ? Parce que cette émission que vous appréciez toutes les semaines, elle n'existe que parce que vous la soutenez. Ce sont les auditeurs qui soutiennent l'émission. La pub est vraiment anecdotique. C'est une partie congrue des revenus de mon travail. Et moi, je suis rémunéré par les auditeurs qui choisissent d'aller sur Patreon. Donc, si vous appréciez l'émission, j'aimerais vous encourager à aller voir par là-bas, patreon.com/rdvtech. Vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux. Ce n'est pas grand-chose. C'est le prix d'un café ou le prix d'une chocolatine ou le prix d'un sandwich pour soutenir l'émission. Si vous l'appréciez, je vous remercie d'aller y jeter un coup d'œil. Et si vous en avez les moyens, bien sûr, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ceux qui font ce choix sont ceux qui permettent à l'émission d'exister. Un grand, grand merci à tous. patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission aussi. Donc, vous pouvez y aller sans même retenir l'URL. Et quand vous rentrez chez vous, les clés dans le bol. Cling, Patrick ! Ah ! Comment ? Regardez, je vais faire un truc. C'est le bruit que, quand ça fait ce bruit, vous, Patrick, patreon.com/rdvtech. Merci à tous et à toutes.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La suite des infos sur lesquelles on va passer un petit peu plus vite. Alors d'abord, je mentionne que au moment où vous entendrez cet épisode, il y aura sans doute déjà le détail des recommandations de la commission pour comment elle s'appelle, la commission écran, qui va faire ses propositions au gouvernement pour améliorer la vie des enfants par rapport aux écrans. Elle avait fait beaucoup de bruit quand Macron l'a proposé il y a quelques temps. On n'a pas encore les détails, donc on en reparlera peut-être la semaine prochaine. On verra quand on aura les détails. D'après ce qu'on en a entendu jusqu'ici, il a l'air quand même d'y avoir beaucoup d'interdictions et pas beaucoup d'éducation. C'est ce que j'en retire. Genre, pas d'écran avant tel moment, pas de réseaux sociaux avant tel moment, pas de téléphone avant tel moment. Alors, peut-être que tout ça est nécessaire, on pourra en débattre, mais tout ce qui est éducation pour comprendre les médias, il n'y a pas... Bon, on verra, on attendra, ça sera dans quelques heures, on aura le détail des propositions, mais c'est ma première impression à ce stade. Parlons encore un petit peu d'IA, tiens. Est-ce que tu connais ce cauchemar pour tous les podcasteurs, le Discover Daily Podcast de Perplexity ? Est-ce que tu sais ce que c'est ?
Alors, j'utilise Perplexity, évidemment, mais je ne savais pas qu'il y avait un podcast. Donc, qu'est-ce qu'il fait ?
Alors, Perplexity, c'est, on va dire, une énième société qui propose un chatbot et de la recherche avec un LLM. Là, c'est Flav P sur le Discord qui m'a envoyé le lien. On parle depuis des mois maintenant du moment où les IA pourront faire des podcasts tout seuls. Toute seule, et bien là, on y est. Alors, je ne sais pas à quel point c'est 100% automatisé, mais c'est un podcast qui est écrit et lu par une IA chaque jour, qui dure entre 5 et 10 minutes, et qui est publié automatiquement sur les news tech, société, culture, etc. Je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne. C'est ça.
Welcome to a new episode of Discover Daily, your daily podcast curated by Perplexity. I'm your host, Alex, and my voice is powered by 11 Labs. Today, we have an exciting lineup
Donc
of
voilà.
stories.
que ça donne. Et il donc lit les news, les différentes news qui ont été sélectionnées dans la journée. Avec les voix de Eleven Labs, qui est l'outil que je vous avais fait découvrir il y a un bon moment de ça, avec lequel j'avais refait ma voix, avec lequel j'avais fait des voix artificielles, etc. Donc, bon, c'est écrit par IA, fait par IA, etc., etc. Et c'est publié sur les réseaux tous les jours, sur les réseaux de podcast, automatiquement. Benoît, tu es un podcasteur toi aussi, on est foutu.
On est foutu. Non, mais les gens t'écoutent et contribuent à Patreon, je l'espère bien. Kling, hein, vous n'oubliez pas, pour ta personnalité pétillante. Alors, le copain, là, il est, je veux dire, ça, le truc qu'il y a, c'est que c'est probablement pas assez idiot pour qu'on s'abrutisse devant et pas assez intéressant pour qu'on aille en vie, comme quand on a une discussion entre êtres humains. Donc, ça tombe au milieu. OK, alors c'est très impressionnant, je trouve super. Mais ouais, c'est comme les textes écrits, n'importe quel texte écrit par l'IA, ça sera toujours hyper prudent, ça sera toujours hyper, toi les commentaires sur LinkedIn, les posts dans les journaux, tu les sens venir à des kilomètres ces trucs. Ouais. Donc, alors très beau, très joli, impressionnant, mais alors pas encore inquiet.
Je crois que beaucoup de gens ont réagi de cette manière, c'est effectivement, c'est un petit peu plat, il n'y a pas d'émotion. Je crois que, tu sais, je réfléchissais à la question du réalisme dans les jeux vidéo et dans la réalité virtuelle il y a quelques années. Et quand on se met à imaginer le monde de Ready Player One, c'est-à-dire des univers virtuels qui sont tellement réalistes qu'on a l'impression d'être dans la réalité, et puis peut-être avec des trucs qui se branchent directement sur le cerveau ou des combinaisons qui vous font sortir tous les trucs, tu vois. Est en théorie un exercice de pensée, est-ce que finalement c'est pas la réalité ? Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que comme dans le jeu vidéo, parce qu'on nous dit depuis des dizaines d'années maintenant dans le jeu vidéo, ça devient tellement réaliste que ça nous influence. Il y a des trucs, des images de guerre, des machins, et on a l'impression que c'est vrai. Alors, ça nous influence peut-être, mais on a l'impression que c'est vrai ? Non, on n'a jamais l'impression que c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est pas vrai. Et le simple fait de savoir que c'est pas vrai est suffisant pour qu'on le comprenne vraiment et qu'on le vive différemment. Et c'est, à mon avis, ça qui s'appliquerait également à des mondes virtuels ultra réalistes, qui seraient super fun, qui seraient, tu vois, même des univers en réalité virtuelle ultra réalistes. Le fait de simplement savoir que ce n'est pas vrai est suffisant pour faire la différence avec la réalité, même si c'est reality-like. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On sait que ce n'est pas une personne, donc elle peut être aussi réaliste que possible. On sait que ce n'est pas une vraie personne derrière. Moi, vous savez que je suis une vraie personne, j'ai mes histoires, je vous parle de moi, on a une relation particulière avec les auditeurs, donc, et puis j'espère une analyse aussi spécifique, donc c'est différent. Mais tout ça, il n'est pas dit que ça n'arrive pas chez une IA un jour. Peut-être qu'elle vous fera rire autant que votre YouTuber préféré, cette IA. Peut-être qu'elle aura des analyses aussi intéressantes que les miennes, ou celles de Benoît plutôt, un jour. Mais vous saurez que ce n'est pas une vraie personne, donc est-ce que ça aura la même valeur ? Sans doute pas, j'imagine, mais ça ne veut pas non plus dire que ça n'a pas de valeur du tout. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier en entendant ce podcast. C'est un truc qui a été fait. Alors, on ne sait pas à quel point il y a des humains qui sont intervenus dans la curation, dans la sélection, etc. Mais ça a été fait. C'est comme je disais la semaine dernière, des images d'une série télé très mal faite par des vidéos qui ont été faites sans personnes vivantes qui ont été filmées, sans matériel, sans caméra, sans images qui ont été capturées. Ben là, c'est pareil. Il n'y a personne qui a parlé pour dire ces mots. Il n'y a personne qui a écrit le texte. Et ça, c'est déjà un accomplissement. Maintenant, peut-être que ça reste, ça change rien en fait que c'est plat, mais il y a quand même quelque chose d'impressionnant là-dedans, quoi.
Non, mais et puis tu vois, moi, je le vois bien dans un intranet. Les trucs que personne ne lit, ou tu vois, pour avoir plusieurs médiums de communication, un truc qui te résume un peu les nouvelles importantes. Là, tu n'es pas en train de chercher une relation. Donc, oui, ça a la place, mais ça, à mon avis, pas une place de médias grand public. Mais par contre, ça va avoir plein de niches où ça sera beaucoup mieux ça que ce que tu as maintenant, ça, c'est sûr.
Ouais. Il y aura peut-être des usages où, effectivement, ça sera utile. Parce que, disons que ce qui me préoccupe, on va dire, s'il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est pas tant que ces podcasts vont remplacer pour les podcasts d'actu tech les podcasts d'actu tech faits par des gens comme moi. La préoccupation, c'est peut-être le temps d'écoute disponible pour les gens. Parce que s'il y a d'autres choses qu'ils aiment bien écouter, on évoque dans la chatroom les articles lus par des IA, par exemple. Si les gens se mettent à écouter ça comme ça, ils auront moins de temps pour écouter les podcasts. Bon, en même temps, l'intérêt de cette émission, c'est que je vous résume tout ça et je vous analyse tout ça. Donc, je fais une étape au-dessus que juste lire les articles. Donc, c'est peut-être ça la valeur ajoutée aussi, que l'IA fera peut-être un jour, mais on n'y est pas encore complètement, je crois. Et puis, c'est plus sympa d'entendre Patrick avec ses histoires de famille, de mariage. Quand on s'est rencontrés, je ne connaissais même pas... Enfin, c'était il y a 20 ans, rendez-vous compte, presque 20 ans qu'on s'est rencontrés pour certains d'entre nous. On a parcouru un petit bout de chemin ensemble. En fait, il faut que je m'accroche aux vieux qui m'écoutent depuis longtemps. Tu sais, c'est eux qui vont bien m'aimer, les autres, ils s'en foutront.
Ouais. Bon. Ils auront de plus en plus de temps, toi, bientôt tous à la retraite. Donc,
je ne sais pas si ça sera le cas, hein, visiblement. Bon, c'est que quelques années de plus, ça va. Bientôt, on y sera tous et on discutera sur Discord. On aura tout le temps de jouer à des jeux vidéo ensemble en écoutant les podcasts.
Exact.
Un autre sujet intéressant qui a à voir avec l'IA, c'est l'arrestation d'un professeur de lycée qui a été arrêté à un aéroport avec un flingue. C'est une autre partie de l'histoire, mais il a été arrêté parce qu'il avait créé un faux enregistrement par IA de leur proviseur qui faisait des remarques racistes. Et il l'avait créé de manière à ce qu'on ait l'impression que c'était un enregistrement qui avait été capturé peut-être dans la salle de repos des profs. Et il disait des trucs assez horribles, des trucs genre « Ah, voilà, les Noirs, de toute façon, ils n'arrivent même pas à passer les tests de qualification et pourtant, on doit se les coltiner. Et pareil avec les Juifs, machin. » Bon, bref, c'était assez horrible. Et il a été, il a été arrêté, ce type. Et là, vous dites, ah bah ok, il a utilisé de l'IA, il a été arrêté, ok, tout va bien. Oui, mais non, en fait. Parce qu'il a été arrêté là, fin avril. Les enregistrements, je mets des guillemets, ont été leakés en mi-janvier. Et entre-temps, le proviseur en question a été complètement mis sur le banc de la société. Il a été écarté de l'école. Je vais vous faire écouter un petit peu l'enregistrement.
Between these ungrateful black kids who can't test their way out of a paper bag.
Vous voyez, c'est à ça que ça ressemble.
How hard is it to get these students to meet their grade level expectations?
Donc, les experts qui ont écouté ça ont dit assez vite, ouais, ça pue l'IA quand même. Pour plein de raisons, ça sent l'IA, mais il n'empêche, le proviseur a été écarté de l'école. Il y a eu des conséquences réelles qu'on peut imaginer pour ça. Maintenant que le prof a été arrêté, visiblement, les choses sont clarifiées. Mais je ne sais pas si le type peut regagner sa réputation. Il y a eu des manifestations contre lui. Il a été des appels de parents d'élèves qui voulaient... Enfin, bref, tout ce qu'on peut imaginer dans ce genre de cas. Et c'était fait par une IA. Bon, c'est une des premières fois qu'on entend ça. C'est certainement pas la dernière. Mais la préoccupation que j'ai, moi, c'est comme toujours... Dans ce genre de cas, c'est pas tant les cas où c'est fait par une IA qui est ensuite identifiée qui me préoccupe, c'est tous les cas ensuite, l'effet pervers que ça a sur la réalité, c'est-à-dire que on ne sait plus ce qui est vrai ou pas. Là, nous, on n'est pas des experts d'IA, on ne comprend pas qu'il n'y a pas de temps de respiration, il y a des trucs qui ont l'air d'avoir été montés ensemble, etc. On ne l'a pas analysé, forensic analysis de la police. Donc, pour nous, ça paraît réel. Mais du coup, la prochaine fois qu'on entend un truc réel, est-ce qu'on va pas se dire « Ah, mais peut-être que c'est de l'IA, donc on s'en fout. » Et donc, on se fout tout réel ou pas. C'est ça qui me préoccupe.
Bon, après que celui qui n'a jamais utilisé l'IA pour faire licencier un collègue lui jette la première pierre. Hein. Là, on est bien d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Alors, sincèrement, quand on entend... effectivement, il faut être déjà bien spécialiste. Toi, nous, on passe quand même un peu notre temps... avec de la voix, c'est pas criant, donc c'est fou, quoi. C'est un exemple, je pense, à diffuser vraiment, parce que, comme tu dis, ça pose énormément de questions.
Je mettrai le lien vers l'article qui décrit ça dans la newsletter, à laquelle vous pouvez vous abonner, bien sûr, gratuitement. Elle est dans les notes de l'émission, ou alors sur notepatrick.com, et vous pouvez retrouver tout ça. Max Schrems, vous le connaissez, Max Schrems, c'est un activiste australien qui se bat contre les GAFAM et leur l'utilisation de nos données depuis des années maintenant. Il a intenté un procès à OpenAI. Pourquoi ? Parce qu'il estime que le chatbot ChatGPT contrevient aux règles du RGPD, Que dit le RGPD sur les informations sur les personnes ? Il faut que les informations sur les personnes diffusées en ligne soient justes. Or, ChatGPT, Max Schrems, il a googlé, entre guillemets, son nom, il a demandé des choses sur lui-même à ChatGPT, ChatGPT a dit des bêtises. Et il a donc envoyé des messages à OpenAI, des emails, des lettres à OpenAI en disant « s'il vous plaît, rectifiez ça ». Et OpenAI, évidemment, ils utilisent un LLM, ils ne peuvent pas rectifier spécifiquement pour le nom de Max Schrems. Et donc, il intente un procès en disant « ils ne sont pas en accord avec le RGPD ». Alors, les conséquences, je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais sur le principe, ChatGPT dit des bêtises sur Max Schrems spécifiquement, donc contrevient au RGPD. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ouais.
Écoute, le problème de ces règlements, c'est que, évidemment, tu peux essayer de les impliquer à n'importe quoi. Mais c'est clairement, c'était pas l'objet de ce règlement. Et puis, donc, je suis pas fan. Je peux comprendre le souci. Je peux comprendre que voilà, il faut peut-être. Et puis d'ailleurs, on le voit hein, dans le EU Act, il y a des barrières sur plus c'est sensible, plus tu dois prouver quand même que justement tu dis pas n'importe quoi. Donc, c'est déjà pris en compte. Je pense qu'il y a des bien meilleurs moyens que ça de le faire. Donc, je le mets un petit peu dans la catégorie troll, pour le coup, mais peut-être pour être généreux à visée pédagogique. Parce que
troll
c'est
à
vrai
visée
c'est...
pédagogique, c'est bon.
C'est vrai que ce n'est pas très clair de... Enfin, pour tout le monde, hein, encore comme on utilise ces outils. Je vais essayer de mettre « Décris-moi Patrick Béja » dans ChatGPT, voir ce qu'il nous dit. Alors, donc, Patrick Béja est un vidéaste, podcasteur, et après, tu l'as fait complètement bugger.
Ah oui
ouais, non, oh, il a beaucoup de choses à dire, quoi. Oh, il a beaucoup de choses à dire, quoi. Non, mais que du bien. De tout ce que je lis, tout juste.
C'est
donc,
juste,
voilà.
Ok. Bah, comme quoi, tu vois.
Tu n'es pas obligé de te joindre à la plainte de ce monsieur.
De Max Schrems. Ouais, je suis assez d'accord. C'est quand même un peu poussif, cette plainte. Clairement, les LLM... Le problème, en fait, c'est que, pour moi, le fond du problème, c'est qu'un chatbot ne prétend pas dire que des choses justes. Au contraire, ils sont assez clairs sur le fait que un chatbot d'IA, un LLM, est assez clair sur le fait qu'il n'est pas censé dire que des choses justes. Au contraire, il prévient, attention, je suis une IA, je peux dire des bêtises. Donc, oui, non, clairement...
Bon, je veux rétracter ce que je viens de dire, parce que je l'ai dit, et physiquement, et il me dit, physiquement, Patrick Béja est un homme d'apparence ordinaire. Il semble être dans la quarantaine ou la cinquantaine. Non, mais ça va. Mais qu'est-ce que c'est que cette désinformation complète ?
Écoute, attends, continue à lire. Il semble être dans la quarantaine ou la cinquantaine, c'est ça ?
Avec des cheveux courts et peut-être quelques traits de visage distinctifs. Mais ça n'a pas l'air très sûr, voilà. Comme il est plus connu pour son travail audio et vidéo, son apparence physique n'est pas nécessairement le point central de son image publique.
Franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas
diplomatique.
Mal. Ouais.
Non. Très bel homme de radio.
Physique de radio, c'est ça. Non, dans l'ensemble, moi, je trouve que, oui, c'est clairement poussif. Le RGPD, il n'est pas là. Enfin, ce n'est pas qu'il n'est pas là pour ça. C'est que surtout, une IA te dit à la base, et on le sait bien et on le comprend bien, on ne dit pas que des choses exactes. On peut se tromper régulièrement. Donc, si on n'a même pas le droit de dire, attention, je dis des choses qui ne sont pas justes, et ensuite dire ce qu'on veut... si on étend ce raisonnement, on n'a plus le droit de dire quelque chose, je ne sais pas, qui est une blague, qui est une plaisanterie ou qui est faux pour troller ou pour... Tu vois, donc, bon, calmons-nous. Non, pour moi, là, le RGPD ne s'applique pas et j'imagine qu'il va être débouté parce que... C'est le problème des activistes, tu vois. Il y a souvent des trucs avec lesquels tu peux être d'accord, mais au bout d'un moment, ils sont tellement dans leur truc en tunnel, et je mets tous les activistes dans le même sac, là, pour me faire des amis partout, au bout d'un moment, tu sens que ça peut déborder, quoi. Et c'est là qu'il faut faire un petit peu la part des choses. Je pense que Schrems, il est très important pour le fait d'avoir poussé la protection de la vie privée dans l'Union européenne. Vraiment, à lui seul, il a fait énormément de choses. Là, je ne le suis pas. Peut-être qu'il me fera changer d'avis, hein. Ça se trouve, il faut du temps parfois pour s'habituer aux nouvelles. Peut-être que oui, les boîtes comme OpenAI devraient être responsables de ce que disent leurs chatbots. Bon, moi je crois pas, c'est d'autres utilités. D'ailleurs, en parlant de chatbots, est-ce que vous connaissez Albert, en Suisse, dans la Confédération. Tu sais qui c'est, le chatbot Albert ?
Non, on a qu'un Albert en Suisse, c'est Albert le Vert. Donc voilà, je pense que personne qui est pas suisse connaît. Donc allez regarder Albert le Vert, mais je pense pas que ça soit le même Albert.
En fait, c'est un chatbot qui a été développé en France pour répondre aux questions des administrations. Et c'est un chatbot qui est contrôlé, fermé. Il est basé sur Llama, je crois. Qui est donc un LLM open source, celui de Meta. Peut-être qu'il pourrait utiliser Mistral. Est-ce que c'est Llama ou Mistral ? Je ne sais plus. En tous les cas, il a ingéré une énorme quantité de documents administratifs officiels et il peut du coup répondre aux questions des employés du gouvernement, des fonctionnaires qui pourraient oui, c'est bien Llama, hein, c'est ça, et de Mistral, il utilise les deux, des fonctionnaires. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on le sait, dans des situations, dans des sociétés où les informations peuvent être, des sociétés ou des contextes où les informations peuvent être sensibles, il ne faut pas utiliser des chatbots publics qui peuvent réutiliser vos informations ou simplement vous donner des informations erronées. Donc, c'est un truc qui est en cours de développement, qui n'est pas encore complètement public, à voir si ça sera utile. Les premiers retours ont l'air mitigés, les premiers retours des fonctionnaires qui l'ont testé. Mais bon, à voir, moi je trouve que c'est une bonne initiative quand même, au moins à tester, quoi.
C'est génial. Nous, c'est quelque chose que donc je travaille pour le gouvernement, qu'on veut faire dans plein de trucs. Alors, il y a un département de la qui gère les fondations qui a mis un chatbot en ligne. Ça s'appelle FragEsi, FRAGESI. On peut lui poser, c'est en allemand, mais on peut poser des questions en français. Et c'est vrai que c'est déjà très intéressant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la capacité à savoir ce qu'on ne sait pas, qui est un peu le point faible de ces modèles. Mais comme là, il y a des bases assez claires. Toutes les questions que j'ai posées, j'ai essayé d'en poser des un peu compliquées, ont été bien répondues. Et sincèrement, c'est évident que c'est ça qu'on veut pour l'administration. C'est clair que ça ne va pas répondre aux questions les plus pointues, etc. Mais c'est comme tout, c'est des lois de Pareto. Les 80% des questions peuvent être répondues très facilement, mais c'est juste trop compliqué à trouver. Génial, je me réjouis de rencontrer Albert et je me réjouis qu'on en ait une version en Suisse. Ça nous ferait tellement de bien.
Oui, c'est ça. Ça peut faciliter le travail des fonctionnaires. Je reviens sur Max Schrems, parce qu'on me dit dans la chatroom, il y a des réactions un peu énervées qui me disent « Non, mais il a raison, il doit pouvoir demander la modification de ses datas à lui. Le problème n'est pas qu'OpenAI ait de fausses infos, mais qu'on ne puisse pas leur demander de les modifier. Le RGPD les oblige à pouvoir le faire. » Et on nous dit aussi « Donc on fait quoi ? Parce qu'elles préviennent, les gestionnaires d'IA n'ont pas à corriger les choses erronées quand elles sont signalées. L'arrêt de dérive n'est pas du côté de l'activiste, là. » Alors, je vous arrête tout de suite, les enfants. Le but, l'idée du RGPD est de pouvoir corriger des informations factuelles sur vous qui sont sur Internet. Une IA n'est pas là pour donner des informations factuelles. La cassure dans la ligne logique, elle n'est pas l'IA doit pouvoir changer les données qu'ils ont en stock. Ils n'ont pas une base de données avec toutes les informations sur tous les gens. Ce n'est pas comme ça que ça marche, l'IA. Elle n'est pas là pour délivrer des données véridiques. Donc, c'est méconnaître ou mal comprendre le but de l'outil à la base. La raison pour laquelle le RGPD oblige à modifier les données sur les gens, c'est que quand on va googler un truc, on va penser, bon alors, qui est Benoît Kurdi ? Et je vois dans Google, Benoît Kurdi est un repris de justice qui a été condamné pour détournement de fonds à plusieurs reprises. On part du principe que l'information est vraie. Et donc, on va former notre opinion sur Benoît Kurdi. Et c'est pour ça que le RGPD impose à Google d'avoir des informations exactes dans les résultats de recherche, parce que l'information est censée être fiable. C'est ça le problème. L'information d'une IA n'est pas censée être fiable à la base. Personne ne va demander à ChatGPT qui est Benoît Kurdi et croire ce qu'il y a. En tout cas, s'ils le font, le problème ne vient pas de ChatGPT, c'est qu'il a mal compris le but de l'outil. Donc, non, je suis désolé. Là, le problème vient de l'interprétation de Max Schrems, à mon sens, du RGPD et du but du RGPD. Le RGPD est là pour que les fournisseurs d'informations qui sont censés être fiables donne des informations fiables. Donc, à la base, si tu n'es pas un fournisseur d'informations qui est censé être fiable, tu n'es pas concerné. Ou alors, encore une fois, il faut appliquer... je pense qu'on comprend bien ce que j'ai dit. Donc, je suis désolé, je réponds à... Oui, mais les datas sont possédées par OpenAI. C'est pour ça qu'il a demandé à OpenAI de modifier ses données, la chose qu'il ne peut pas faire. Le RGPD oblige OpenAI à modifier les données de l'activiste. Non ! Non ! Non ! Le RGPD oblige certains fournisseurs d'informations... Enfin, c'est un cas nouveau. Et peut-être qu'il va falloir statuer sur le statut d'OpenAI. Mais, encore une fois, l'esprit de la loi, c'est que les moteurs de recherche comme Google donnent des informations qui sont censées être justes et fiables. Et donc, il ne faut pas qu'ils induisent les gens en erreur. Elle s'applique, cette loi, aux fournisseurs d'informations justes. OpenAI, ils font autre chose. C'est un LLM. Ce n'est pas la même chose. Donc, ouais, pour moi, ça ne s'applique pas.
Effectivement, il faut aller corriger la source. Si OpenAI faisait leur propre source, là, ça serait différent. Et que volontairement, ils s'entraînaient sur des données qu'ils savent fausses, OK. Mais ce n'est pas du tout le sens de ce que j'ai compris. Non. Moi, je reste comme toi, je pense. Ouais. Je reste sur mon troll.
Et on me dit qu'il faudrait demander à un expert en droit pour le coup. C'est exactement ce qui va se passer. C'est pour ça que le procès, j'en parle, c'est parce qu'on va avoir a priori la réponse à cette question. Mais bon, on en reparlera au moment où... Mais si on impose à OpenAI de ne donner que des réponses justes, ça équivaut à interdire la conception de LLM. Donc là, tu vois, c'est un petit peu... comme dire, je ne sais pas, les drones peuvent être dangereux, donc on va interdire tout ce qui vole. Et donc, les avions peuvent plus voler. Et donc, mon analogie est peut-être un petit peu poussée, un peu trop loin, mais vous voyez ce que je veux dire. En parlant d'OpenAI, le Financial Times a également signé un deal avec OpenAI pour entraîner ses modèles sur les archives et permettre à ChatGPT de donner des réponses venant du Financial Times. Donc, ça continue OpenAI qui paye beaucoup de gens pour avoir du contenu et leur donner une légitimité plus grande qu'ailleurs. Threads est de plus en plus au-dessus de X dans le nombre d'utilisateurs et dans le nombre de téléchargements. Dans les App Store, aux États-Unis en tout cas. C'est vraiment notable parce que Threads de Meta a été lancé en réaction au rachat de Twitter par Elon Musk. Et bien sûr, Elon Musk disait « je m'en fous de Threads, X est vraiment là, est vraiment super puissant et on ne va pas disparaître de sitôt ». Tous les indicateurs, alors ce n'est pas une chute du jour au lendemain, mais tous les indicateurs sont que non seulement Threads gagne en popularité, mais X perd beaucoup en popularité aussi.
Il est disponible, je ne me suis tellement pas intéressé à ça, et c'est disponible en Europe maintenant, Threads ?
Ah oui, ça fait un bon moment, oui. Tout okay. à fait.
Toi, tu es dessus ? Tu utilises ?
Je suis dessus. Je t'avoue que je ne suis pas 100% convaincu. Je trouve que l'interface est un petit peu confuse. Mais bon.
Ok. Bon, peut-être que je lui donnerai une chance.
Tu sais, c'est Facebook derrière. Donc. D'ailleurs, on parlait de méta et de résultats avec les pertes astronomiques en réalité virtuelle. C'est le moment des résultats trimestriels. Le truc ce que je dirais, c'est que toutes les boîtes qui ont investi massivement dans l'IA sont montées en bourse et ça va très bien pour elles. Intel, par exemple, ça ne va pas super bien. Mais Pat Gelsinger dit, évidemment, c'est normal, on a une réorientation de la société qui va prendre des années et des années. Mais donc, c'est normal que les choses n'aillent pas bien pour nous maintenant. C'est un projet sur le long terme avec le fait de vendre leurs services de fonderie à d'autres, etc. Et puisqu'on parle de fonderie, il y a un article hyper intéressant qu'a écrit Chris Miller. Chris Miller dans le Financial Times. Chris Miller, c'est celui qui a écrit Cheap War, le livre incroyable que je vous recommande et que Cédric nous a recommandé à de nombreuses reprises, qui parle un petit peu du Chips Act, qui est la loi qui était censée encourager le fait de construire des fonderies aux États-Unis. On a un petit peu le même genre de choses en Europe. Je ne sais pas si c'est aussi efficace, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que c'est étonnamment efficace. Ça relance effectivement les investissements et la construction, qui a déjà commencé les constructions de fonderies de puces aux États-Unis. Et donc, pour une fois qu'il y a des gens qui disent aux États-Unis que le gouvernement fait un truc bien et pas, mon Dieu, c'est horrible, le gouvernement, ils sont terribles, c'est notable. Et bon, après, à savoir si on a vraiment besoin d'avoir cette infrastructure dans nos pays pour des questions de souveraineté. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher aux États-Unis. Et puis, ça va coûter plus cher à produire. Hein, donc, et on a une loi aussi sur le droit à la réparation qui a été votée en Europe, qui a été adoptée par le Parlement européen. Donc, on va avoir plus de pièces détachées obligatoires, réparations plus longtemps, etc. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose.
Je suis en train d'essayer de regarder depuis quand tu parles du Chip Act, mais ça fait un moment que c'est là, je veux dire. Je suis à l'épisode 500 déjà, donc si vous voulez aller faire un petit voyage dans vos épisodes anciens du Rendez-vous Tech, ouais, on peut refaire tout l'historique, bien couvert.
Tout à fait. Ben oui, mais ça prend du temps pour vraiment construire les fonderies. On se souvient que c'est au moment du Covid où on s'est aperçu que les puces étaient une question, enfin, une industrie de, comment dire, qui était importante pour la souveraineté. Et c'est à ce moment qu'on a commencé, donc ça fait quoi, 3 ans quand même déjà, un peu plus, on a commencé à essayer de les refaire construire chez nous. Allez, quelques petites news rapides. Tesla est en train visiblement de tout parier sur la conduite autonome avec des robots taxis. Et ça a l'air de convaincre les investisseurs. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour la viabilité du plan, mais Elon Musk a réussi à convaincre. Et je dis beaucoup de mal d'Elon Musk régulièrement. Il est en train de se battre contre une décision australienne de bannissement d'un contenu sur son réseau, sur Twitter, sur X. Et pour une fois, je vais peut-être me ranger du côté d'Elon Musk. Alors, le problème, c'est que c'est une vidéo qui est terrible d'un religious leader qui s'est fait poignarder, un religieux qui s'est fait poignarder. Le problème, ce que critique Elon Musk, c'est qu'il se bat, comme toujours pour les mauvaises raisons, enfin, dans un contexte qui est celui d'Elon Musk, qui est très à droite, qui est MAGA, etc. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est appliquer l'ordre légal australien qui impose à Twitter de supprimer ce contenu dans le monde entier. Lui, ce qu'il dit, bah, on le supprime en Australie, très bien, c'est vous, là que vous avez la juridiction, mais vous ne pouvez pas nous imposer de le supprimer dans le monde entier. Et là, j'avoue que, même si ça me fait un petit peu mal, je dois dire que je suis d'accord avec lui. Si un pays peut décider la suppression d'un contenu dans le monde, ça veut dire que dans tous les pays du monde, on est sujet au bon vouloir des gouvernements d'autres pays. Et ça, ça ne me plaît pas tellement comme idée. Donc, pour une fois, je suis...
Clairement, on se bat. Enfin, voilà, on parle beaucoup de souveraineté récemment, ça va exactement dans ce sens-là. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est important de savoir où sont les limites. Alors, on parle d'effet Bruxelles, etc. Bah oui, mais ça, c'est des décisions des sociétés qui décident de se simplifier la vie. Mais voilà.
Et enfin, le Rabbit Arwan est sorti. Vous savez, ce petit truc d'IA dans une boîte qui est... Et la review de MKBHD est à peu près aussi terrible que celle du AI Pin Humane.
Oh, le hater, il tue l'innovation, il déteste la tech, hein, j'ai toujours su.
C'est marrant parce que j'ai parlé de ce sujet la semaine dernière et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux aussi. Et ça a encore pris en importance dans les jours qui ont suivi. Et il y a des gens, effectivement, qui pensent qu'il est trop dur avec les sociétés, machin. Mais enfin, dans quel pays vit-on ? Dans quel monde vit-on ? Ils disent ce qu'ils pensent des produits, encore heureux. Donc, c'est intéressant à noter. Mais ce que je notais vraiment la dernière fois, c'est que MKBHD est l'un des premiers à avoir une influence sur l'industrie et pas juste sur les gens qu'il voit. Sur les gens qui le regardent, mais sur l'industrie au sens plus large. Et c'est bien parce qu'il est droit dans ses bottes et il continue et il fait des références à cette polémique. Mais bah oui, il dit ce qu'il pense, quoi, heureusement. Donc, bien joué. Et voilà pour notre rendez-vous tech. Merci Benoît d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné et de m'avoir honoré de tes avis éclairés. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Ouais, bah, grand merci à toi. C'est toujours un plaisir de passer. Je suis un peu partout, Bekurdi, récemment sur Threads. Donc, venez là aussi.
Ça y est, et tu viens de t'inscrire.
Exact.
Je vais te chercher et tout de suite. Bekurdi, tu vas voir que tu as ton premier follower. Bekurdi, suivre. Ah mais non, mais tu as déjà 21 followers. Qu'est-ce que c'est cette histoire hein. C'est fou.
Ah,
mais peut-être que c'était followers de... Enfin, il y a une partie des followers d'Instagram qui sont venus. Mais pourquoi est-ce que je n'étais pas parmi ces followers d'Instagram ? Je ne te suis pas sur Instagram ! Mais tu sais, c'est ça qui est horrible.
Mes deux photos d'il y a 10 ans sur Instagram n'ont pas suffi à te convaincre.
Mais tu sais, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il faut... il faut maintenant être sur 1000 réseaux différents pour suivre. C'est vrai que c'était des photos il y a 10 ans et je te suivais pas effectivement. Ah oui, non, mais c'est vraiment, t'es pas un gros post. Bon, ben je vais pas te suivre sur Instagram du coup, tant pis.
Non,
mais
sur Threads,
oui.
Oui, sur Threads. Et puis, aussi, ben, on est sur NipTech chaque deux semaines, voilà, de temps en temps. Et ben, en tout cas, encore une fois, merci. Et puis, super communauté comme d'habitude dans le chat, donc ça fait grand plaisir.
Merci à toi. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Vous avez le lien vers tous les réseaux, tout ce que je fais. Le groupe WhatsApp qui arrive à bientôt 1000 personnes. Le groupe, pardon, la chaîne WhatsApp qui arrive à 1000 personnes bientôt. Donc, vous pouvez suivre. Fanny, si tu peux mettre encore le lien, il faut vraiment qu'on remette. On va le mettre juste tout court, ce lien, dans les liens des émissions. On va le rajouter. Et puis la newsletter aussi, et puis le Discord, et surtout, évidemment, le Patreon, patreon.com/rdvtech, pour soutenir l'émission et ce que je fais. Comme je le disais, si vous appréciez l'émission, je vous encourage à aller l'encourager ou même la faire vivre avec Patreon et avec le soutien participatif qu'il rend possible. C'est un modèle, comment dire, vertueux, propre. Cool, sympathique, ingénieux. Donc patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux et à toutes celles, nombreux et nombreuses, qui soutiennent l'émission. Vous pouvez nous rejoindre et rejoindre la famille. Merci beaucoup et on se retrouve dans une semaine pour un nouveau rendez-vous tech. Ciao à tous.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.